La bibliothèque de Radio Orient, des regards croisés sur la littérature. La bibliothèque de Radio Orient avec Loïc Barrière.
L'invité de la bibliothèque de Radio-Orient est Karima Berger. Vous publiez Les gardiennes du secret, les grandes figures féminines de l'imaginaire musulman aux éditions Albin Michel. Bonjour.
Bonjour.
Alors Karima Berger, c'est un très beau livre que vous publiez, un ouvrage empreint de spiritualité, de philosophie et de poésie, et en même temps un livre très personnel comme vos précédents ouvrages. Vous nous donnez à voir un chemin initiatique, le vôtre. Vous parlez notamment de votre mémoire algérienne. Vous dites par exemple que les femmes de votre famille dévoilent les hommes, exhibent leur vie cachée, l'autre face de leur existence. Pour commencer, avant de vous donner la parole, j'aimerais lire quelques lignes qui ouvrent les gardiennes du secret. Mon sexe est en péril, la promesse divine qu'il portait en lui d'allumer l'univers est partie en fumée. En Europe, déjà, ce sexe, Freud l'appelait le continent noir, en Orient, on l'appelle le continent interdit, haram. Ce que le genre féminin contient de contrées singulières se meurt, alors j'ai soif, je vais à la source, les sources, elles sont ensevelies. Ensevelies comme Agar, chassée au désert par le premier patriarche Abraham, considérée comme la mère des Arabes, avec son fils Ismaël, elle a donné naissance à la filiation arabe Agar, dont le nom signifie la fuyarde, l'exilée, s'efface de l'histoire, la trace de sa robe efface ses pas sur le sable. Et puis plus loin, vous écrivez, Karima Berger, le Coran est masculin et la Fatiha, la première sourate dite l'ouvrante ou l'ouverture, est au féminin. Alors, est-ce que vous pouvez nous parler de la naissance de ce livre ? Je sens, après l'avoir lu, que c'est un livre que vous portez depuis toujours.
Eh bien, vous visez juste, hein. C'est un livre, en tant que femme, je l'ai toujours porté en moi, peut-être pas sous forme de livre, peut-être sous forme de pensée, sous forme d'une histoire, une autre histoire des femmes d'Algérie, du monde arabe, qui serait écrite. Et je l'ai porté, on peut trouver des bribes déjà dans L'enfant des deux mondes, mon premier livre, ou dans Égir, où je parle beaucoup de Agar, et les femmes ont toujours été très présentes dans mes livres. Et peu à peu, comme ça, j'ai réussi à constituer ce livre qui, effectivement, je le porte depuis longtemps, et peut-être va-t-il encore avoir des petits sous d'autres formes cette fois.
Alors, je l'ai dit, c'est un livre personnel. Vous évoquez les femmes de votre famille et vous dites qu'elles ne lisaient pas. Vous dites, vous, que vous étiez impatiente de découvrir ce qu'il y avait dans le Coran.
Oui, oui, j'étais impatiente parce que les Corans qu'avaient mon père et mon grand-père, ils étaient rangés dans une bibliothèque grillagée. Vous savez, les jolis grillages en cuivre, là, avec des petits rideaux roses derrière. Et il les sortait quand il les lisait lui, mais nous, on n'avait pas trop le droit d'y toucher. Et effectivement, pour une enfant, pour une adolescente comme moi en tout cas, dès que c'est interdit, évidemment, enfin interdit, disons que il fallait que je le fasse avec lui, et donc effectivement, je voulais voir quelle était cette parole divine. Quand mon père me disait « c'est la parole de Dieu », c'était impressionnant. Il me dit « comment la parole de Dieu peut être contenue dans un livre, dans des lignes, dans des lettres, dans des mots ?» Et c'était ça ma curiosité, mon impatience.
Karima Berger, vous êtes écrivaine et très intéressée par les spiritualités en général et l'islam en particulier. Et vous écrivez ceci, dans nos religions monothéistes et dans l'islam en particulier, c'est par l'écrit que Dieu s'est manifesté. Chaque verset du livre possède un sens apparent et un sens caché. C'est un peu l'objet de votre livre, trouver le sens caché.
Exactement, oui, tout à fait. Et ce hadith qui est très beau, hein, chaque verset a un sens caché, un sens zahir et un batin. Donc il y a le dos, hein, le batin c'est le ventre et le zahir c'est le dos. Et c'est vrai que ce qui m'intéresse dans une religion, dans ma religion, mais dans les autres aussi, parce que je pense que toutes, elles se rejoignent de toute façon, ce qui m'intéresse, c'est pas tellement l'écorce, c'est-à-dire l'apparence, c'est le noyau, c'est l'intérieur, c'est le cœur. Et c'est là que les religions se rejoignent, c'est pas tellement dans les codes vestimentaires ou dans les codes rituels ou dans les interdits alimentaires, ça c'est des, je dirais, c'est comme des langues qui sont différentes pour chaque religion. Et effectivement, quel est ce noyau? Quel est ce secret? Qu'est-ce qui pousse à l'intérieur de ce corps qu'est une religion?
Et c'est la raison pour laquelle vous citez à plusieurs reprises l'émir Abdelkader, qui était un grand maître spirituel, en plus mm-hmm. d'être un combattant. Mm-hmm. Et vous citez aussi le maître de l'émir Abdelkader, qui était Ibn Arabi.
Ibn Arabi, oui, tout à fait. Ce sont les deux gardiens de ces gardiennes, disons, parce que j'ai dû m'expliquer à un moment, parce que c'est vrai, je m'adosse contre eux, parce qu'il n'y a qu'eux, en fait, qui ont écrit sur les femmes. Il y a, bien sûr, des traités de juridisme, de jurisprudence, d'exégèse sur les femmes, mais ils m'intéressent pas tellement, parce que ça, c'est l'apparence.
Alors, Karima Berger, vous citez toutes ces femmes qui peuplent l'imaginaire musulman. Agar, on l'a dit, Rabia, Marie, Khadija. On s'arrêtera peut-être sur certaines de ces figures. Vous écrivez que ce sont des héroïnes dont l'histoire a négligé ou méconnu la présence ou travesti l'existence.
Oui, oui, je pense qu'il y a eu du mythe, hein, comme dans toute religion. On refait l'histoire, on réécrit l'histoire. Donc l'islam à 14 siècles, on commence à être une religion quand même avec une belle maturité. Et évidemment, beaucoup de choses se sont écrites après la révélation du prophète Mohammed. Je pense, je suis pas historienne, mais je pense qu'il y a eu des enjolivements. Par exemple, Fatima, la fille du prophète, qui me touche beaucoup parce qu'elle est encensée, notamment dans le chiisme. Parce qu'elle a été quand même maltraitée, il faut le dire, elle a été maltraitée par les califes successeurs de son père, ils l'ont privée de l'héritage, alors que le prophète Mohammed a institué l'héritage pour les filles. Cette première mesure qu'a pris Mohammed, enfin la deuxième après l'interdiction d'enterrer les filles, on l'a privée de l'oasis que son père lui avait donné, en lui disant on ne n'hérite pas d'un prophète. Donc Fatima, par exemple, elle est encensée. En Iran, vous avez des noms extraordinaires sur Fatima. Mais qui était Fatima? Quel était le cœur de Fatima? Qu'est-ce qu'elle pensait? Comment est-ce qu'on peut être la fille d'un prophète? Elle s'est mariée à son cousin et son père, c'est lui qui a nommé les deux enfants Hussein et Hussein. Il dit presque, je n'ai pas la phrase en tête, Hassan et Hussein, ce sont mes fils. Donc voilà, donc elle a été exagérément peut-être encensée, mais je n'arrive pas à accéder à sa vérité à elle. Ou comme Aïcha, par exemple.
Karima Berger, toutes ces figures qui sont mentionnées dans ce très beau livre, Les gardiennes du secret, toutes ces figures ne sont pas exclusivement des personnes tirées du Coran ou des hadiths. Il y a aussi des figures comme Leïla, l'héroïne du conte Leïla et Majnoun, et aussi Sherazade, le fameux personnage des Mille et Une Nuits, une héroïne, écrivez-vous, qui vous a secouru, vous et vos sœurs.
Absolument, absolument. Sherazade, je le disais dans une émission récente, c'est notre sainte. C'est notre sainte. C'est une femme qui raconte des histoires à son mari pour qu'il ne la tue pas. Donc elle raconte les histoires, elle raconte pas la fin pour qu'il ne la tue pas, mais pour qu'il ne tue pas non plus toutes ses sœurs, toutes les femmes. Cet homme, ce sultan qui était jaloux, etc., voulait tuer non seulement Shahrazad, mais sa femme, mais aussi toutes les femmes. Donc c'était la fin de l'humanité. Parce que sans les femmes, vous n'avez plus de perpétuation de l'espèce. Donc elle nous a sauvés. Mais elle nous a sauvés pas par sa beauté et par sa danse des sept voiles, comme on le voit ici en Occident. Non, elle nous a sauvés par sa parole, par sa pensée, par son imaginaire, par sa faculté de bâtir des histoires et de faire rêver son mari et de l'amener à la sagesse, puisqu'à la fin, il se convertit à sa femme, si on peut dire. Voilà, donc c'est pour ça que Shahrazad, c'est quelqu'un qui nous a sauvés. Je lui ai dédicacé le livre à elle et à Hajj.
Alors justement, Agar, qui a déjà été évoqué par vous dans votre précédent livre Égir, ce personnage de Agar, c'est le nom de la servante égyptienne de Sarah, la femme d'Abraham, qui a donné à ce patriarche de la Genèse son premier fils, Ismaël. Ce qui vous a intéressé chez elle, c'est le fait qu'elle ait été reléguée.
Oui, voilà, Agar, je la porte dans mon cœur, parce que c'est quand même la mère des Arabes, la mère du peuple des Arabes. Les Arabes qui ont eu le Coran, puisqu'ils n'avaient pas eu encore d'envoyés, comme on dit dans le Coran, ils n'avaient pas encore eu de Rasoul, du dieu monothéiste. Bon, et cette Agar, qui est la mère des Arabes, qui a donné naissance à Ismaël, qui a été chassée par Sidna Ibrahim dans le désert, promise à la mort, parce que quand vous envoyez votre femme et votre fils avec juste une petite gourde d'eau, hein, c'est bon. Mais Dieu l'a sauvée puisqu'elle a trouvé la source Zemzem, etc. Et Agar, je trouve qu'elle est peu présente dans la tradition arabo-musulmane, en tout cas. Peut-être je ne connais que l'Algérie vraiment de façon proche, donc je ne veux pas dire. Peut-être dans d'autres pays elle est présente, donc. Mais en tout cas, je trouve que on n'a pas trop rêvé sur elle, on n'a pas trop imaginé. Il y a peu de filles, me semble-t-il, qui s'appellent Hajar. Il y en a, mais il y en a très peu. Enfin, pour moi, il y en a très peu. Et je trouve qu'elle est méconnue, alors que c'est quand même notre mère à tous et à toutes.
Alors, autre femme évoquée dans les Gardiennes du Secret, Karima Berger, la reine de Saba, qui est venue voir Salomon. Attirée par sa sagesse, elle l'a questionnée à travers des énigmes. Balkis est évoquée dans la Bible et dans le Coran, mais aussi par Gérard de Nerval dans Le Voyage en Orient.
Tout à fait, oui. Balkis, c'est une reine. Et le Coran lui donne un statut tout à fait magnifique qu'on ne trouve pas dans la Bible. Dans la Bible, on parle de la reine de Saba, mais bon, on dit qu'elle a un très beau trône et on met plutôt l'accent sur Salomon. Et dans le Coran, on met l'accent sur la reine de Saba, qui était une reine qui avait beaucoup de discernement. Quand Salomon lui envoie une délégation, elle demande à son conseil, qu'en pensez-vous? Est-ce qu'il faut que j'y aille? Il faut pas trop le provoquer parce que c'est un homme qui peut nous écraser, nous écraser tous. Elle a beaucoup d'intelligence. Et elle va affronter avec son intelligence le roi Salomon dans sa majesté et dans la splendeur de son royaume. Et elle va être, il y a une joute, une espèce de débat entre eux. Et elle dit à la fin, je me soumets avec Salomon à Dieu. Et c'est avec Salomon, c'est pas je me soumets à Salomon. Vous voyez la nuance, elle se soumet pas à Salomon, elle se soumet avec Salomon qui lui aussi est monothéiste. Je me soumets avec Salomon au Dieu unique.
Alors vous citez un hadith qui est très beau. De votre monde m'ont été rendues dignes d'amour les femmes et les parfums agréables et la fraîcheur de mon œil a été placée dans la prière. Oui. Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus sur ce hadith?
C'est un hadith de Sidna Mohammed qui est très connu, qui est goûté, qui est vraiment savouré par justement pendant le temps de l'islam, pendant le temps de Ramadan, parce que c'est un hadith magnifique, parce que Mohammed est un homme, ça n'est pas une créature miraculeuse, c'est un homme comme vous et moi, si je puis dire, comme moi je suis une femme, donc qui a des goûts, qui est humain, voilà, qui a des sentiments humains, donc il est proche de nous, il est proche des créatures de l'islam, et il dit de façon très simple, de façon merveilleuse, très simple, il dit mais moi j'aime les parfums parce que aussi les parfums c'est ce qui monte vers Dieu, hein, quand on met de l'encens, ce sont les parfums qu'aime le ciel, qu'aime Dieu, et ça dans toutes les religions. J'aime les femmes, parce que les femmes sont, pour lui, des intermédiaires. L'émir Abdelkader qui dit, sans les femmes, la parole de Dieu serait restée ignorée. C'est-à-dire que c'est grâce aux femmes comme à Maryam. Maryam, c'est elle qui porte Issa, qui porte Jésus dans son corps. Khadija, la femme de Mohammed, c'est elle qui lui dit, ne t'inquiète pas, c'est bien un ange qui vient te voir et ça n'est pas un démon. Donc les femmes ont un savoir, je ne sais pas lequel, elles ne savent pas lequel, mais c'est un savoir qui est lié à leur nature sensible.
Les gardiennes du secret, finalement, vous ne nous dites pas ce qu'est ce secret, Karima Berger. C'est à nous de le chercher, le secret.
C'est ça, c'est à vous. Oui, c'est à nous de le chercher, de le creuser, de le travailler, de le... C'est ce que Dieu nous propose de chercher, c'est ce secret. Et ce verset est magnifique, hein. Les femmes sont les gardiennes du secret, de ce que Dieu garde secret. Fassalihat, ranitatun, hafidatun lil raib, bima hafidha Allah. Donc on ne sait pas ce que c'est que ce secret, mais il leur a confié ce secret. Et aux femmes vertueuses, mais nous sommes toutes vertueuses. Et
qui était Rabi'a, première femme mystique de l'islam, Karima Berger?
Oui, c'est une femme très importante à qui aussi il faut rendre un hommage. Rabi'a al-Adawiya, on l'appelait comme ça. C'est une femme du siècle 100 ans après le prophète. Elle est presque contemporaine, je disais. Elle vivait à Basra, en Irak. On l'appelle le Basriya aussi de Bassola. Et on dit que c'était une esclave, et une esclave qui chantait, qui peut-être faisait aussi d'autres choses. À cette époque-là, une esclave était soumise à tous les sévices. Hein. Et puis elle est tombée un jour sur cet amour de Dieu, et elle a écrit des sortes de quatrains. Elle n'a pas écrit, mais elle a laissé. Et nous avons quelques paroles d'elle qui sont absolument admirables. Et elle voyait venir le temps du rétrécissement de l'islam. Elle voyait ce temps où l'islam allait être réduit à une comptabilité entre, vous savez, la colonne débit et la colonne crédit. Si je fais la prière, si je fais le ramadan, si je fais ceci et cela, eh bien, j'aurai droit au paradis. Et déjà, elle voyait ça puisqu'elle disait... On la voyait dans la rue, elle avait une torche dans la main droite, avec du feu, et elle avait un seau d'eau, un bidon d'eau, dans la main gauche. Et on lui dit, Rabi'a, où tu vas comme ça? Elle disait, ce qui est extraordinaire, elle disait, avec le feu, je veux aller mettre le feu au paradis, et je veux éteindre le feu dans l'enfer. Comme ça, les musulmans ne feront plus les actes rituels uniquement dans le but d'être au paradis, mais uniquement dans le but de se rapprocher de Dieu. Et voilà.
Il y a beaucoup de pépites, oui, comme celle-ci dans ce très beau livre, Les gardiennes du secret. J'ai en mémoire aussi cette belle citation de l'émir Abdelkader, apparaître c'est se voiler c'est apparaître. Et puis comme dans tous vos livres, Karima Berger, vous convoquez la littérature, vous nous parlez de Virginia Woolf, de Roland Barthes, Tanizaki, Assia Djebar, Henri Corbin, Rilke, Louis Massignon, des lectures qui vous ont aidé tout au long de votre vie et qu'on retrouve dans ce merveilleux livre, Les gardiennes du secret. Je rappelle le titre de ce livre à la fois érudit, intime et poétique, Les gardiennes du secret, les grandes figures féminines de l'imaginaire musulman aux éditions Albin Michel. Merci Karima Berger d'avoir été l'invitée de la bibliothèque de Radio Orient.
Merci beaucoup, merci.
C'était la bibliothèque de Radio Orient avec Loïc Barrière.